Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution ? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges ?
Ô Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce jeudi 27 octobre 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. Le leader de la révolution islamique a présenté ses condoléances à la nation iranienne suite à l'attaque terroriste à Shiraz, promettant la punition des auteurs. La DSA syrienne a intercepté la plupart des missiles tirés par les chasseurs israéliens et a lancé une attaque aérienne contre les environs de Damas. Et en Somalie, 17 terroristes al-Shabaab ont été tués dans un raid aérien. C'était les principaux titres. En voici le journal. Dans un message, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, a présenté ses condoléances à la nation iranienne suite à l'attaque terroriste contre le sanctuaire d'Ahmad bin Moussa, Shah Cheragh à Shiraz. Le crime odieux perpétré dans le sanctuaire sacré de Hazrat Ahmad bin Moussa, que la paix soit sur lui, qui a causé des dizaines de morts et de blessés, hommes, femmes et enfants innocents confondus, endeuille l'Iran entier. L'auteur ou les auteurs de l'attentat seront certes punis, mais la douleur des proches et la profanation du sanctuaire ne seront réparées que par la recherche de la cause profonde de ces actes terribles et la prise de mesures décisives et sages à leur sujet. Nous avons des devoirs face à l'ennemi et ses agents traîtres, ignorants et inconscients. Tout le monde, appareil de sécurité et judiciaire, intellectuel, peuple, doit être uni contre l'indifférence et le manque de respect pour la vie, la sécurité et les valeurs sacrées. La chère nation et les institutions responsables surmonteront sûrement les complots maléfiques des ennemis. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées de cet incident, au peuple de Shiraz et à toute la nation iranienne, et je prie Dieu pour la guérison des blessés. A souligné le leader de la révolution islamique. A souligné le guide suprême de la révolution islamique. De même, dans un message de condoléances aux familles des victimes de l'attentat terroriste qui a frappé mercredi soir 27 octobre le sanctuaire de Shah Cheragh dans la ville de Shiraz, dans le sud-ouest de l'Iran, le président iranien Ebrahim Raisi a prévenu l'ennemi d'une réponse dure de la part de la République islamique d'Iran. Par des actes terroristes, les ennemis de l'Iran se vengent de leur incapacité à créer une scission dans les rangs unis de la nation. Mais les responsables et les planificateurs de ce crime recevront une réponse dure de la part de la République islamique d'Iran qui leur fera regretter ce qu'ils ont commis, a prévenu le président iranien. La voix de l'innocence et de l'autorité du peuple iranien a résonné cette fois dans le sanctuaire sacré de Shah Cheragh. C'est un autre crime, parmi les crimes déjà commis par les ennemis de la révolution islamique. L'expérience montre que les ennemis de l'Iran se vengent de leur désespoir et de leurs tentatives infructueuses de semer la discorde dans les rangs unis de la société iranienne et d'entraver le progrès du pays en recourant à la terreur. Cet acte vicieux ne restera pas sans réponse. Nos services de renseignement et les forces de l'ordre travaillent d'arrache-pied pour identifier les auteurs de cet attentat fomenté à l'aveuglette et infligeront une réponse dure qui leur fera regretter cet acte terroriste, lit-on dans le communiqué présidentiel. Pour sa part, le président du Conseil suprême de sécurité nationale a déclaré « Le processus des troubles initiés par l'ennemi prend une tournure dangereuse. Les courants terroristes ont donc profité de la situation pour passer à l'acte. » Mercredi soir, le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'attentat terroriste dans le sanctuaire de Shah Cheragh. 15 civils ont été tués et plusieurs autres blessés ce mercredi soir à Shiraz. Le secrétaire général des Nations Unies, dans un communiqué publié par son porte-parole, a condamné l'incident terroriste dans la ville de Shiraz. L'opération de construction d'un réacteur de recherche de 10 MW a été lancée ce jeudi 27 octobre à Isfahan, en présence du chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, Mohammad Eslami. Ce réacteur de recherche à eau légère est de type piscine et nourri par une plaque de combustible utilisant de l'uranium enrichi à 20%. Le réacteur de recherche de 10 MW servira aux essais de combustible nucléaire, à la production de radioisotopes médicaux et industriels et au développement de la recherche et des applications des rayonnements neutroniques. La conception et la construction du réacteur de 10 MW d'Ispahan seront entièrement assurées à l'intérieur du pays par des scientifiques nucléaires iraniens. Cette année, deux unités à gaz de la centrale électrique d'Ariane dans la province de Zanjan ont été reliées au réseau électrique national lors de la visite du président Ebrahim Raisi dans cette province. De plus, les unités à vapeur des centrales électriques de Ferdowsi à Mashhad, de Haris en Azerbaïdjan oriental, de Jahrom dans la province de Fars et Urumiye en Azerbaïdjan occidental ont également été inaugurées par vidéoconférence. Grâce à l'exploitation de ces centrales électriques, un total de 1026 MW est ajouté à la capacité des centrales électriques du pays. C'est la première fois que ce nombre important de centrales thermiques sont ouvertes simultanément dans le pays. La DSA syrienne a intercepté la plupart des missiles tirés par les chasseurs israéliens ayant lancé une attaque aérienne contre les environs de Damas. Une puissante explosion a été entendue dans le ciel de Damas le jeudi 27 octobre. Une source militaire syrienne a déclaré qu'à 0h30, Israël avait effectué une frappe aérienne visant des régions de Damas. Certains médias arabes ont annoncé que le système de la défense aérienne de l'armée syrienne avait chassé des appareils israéliens dans le ciel des territoires occupés. L'agence de presse syrienne Sana a également confirmé que la défense de l'armée avait abattu plusieurs des missiles de l'ennemi et qu'aucune victime n'est à déplorer. Certaines sources non officielles affirment également que lors de cette attaque, l'ennemi a tiré 5 missiles sur la banlieue de Damas et que la défense aérienne syrienne avait intercepté et abattu 3 d'entre eux. Les frappes aériennes israéliennes ont touché des cibles à proximité de la capitale syrienne Damas, marquant la 3e attaque de ce type en une semaine, a annoncé le journal israélien Yediot Aharonot. Lors de l'attaque des avions de chasse israéliens contre le quartier de Sayeda Zainab dans la banlieue de Damas, une usine de fabrication d'armes a été ciblée, prétend le journal israélien. Les avions de combat israéliens lancent fréquemment des attaques de missiles sur des cibles à l'est et au nord-ouest de la Syrie en violant l'espace aérien du Liban ou à travers les hauteurs du Golan occupé. Le gouvernement syrien a annoncé à maintes reprises que le régime israélien et ses alliés régionaux et occidentaux soutenaient les groupes terroristes qui combattent le gouvernement syrien. L'armée syrienne a découvert à plusieurs reprises des cargaisons d'armes et de munitions made in Israël appartenant à des groupes terroristes opérant en Syrie. Alors que des médias font état du déploiement des forces spéciales américaines en Roumanie, le porte-parole du Kremlin a déclaré mercredi 26 octobre que cela mettrait de plus en plus en péril les intérêts de la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lors d'une conférence de presse à Moscou que le stationnement des troupes américaines en Europe n'en saurait pas du tout établir la stabilité dans la région. Des médias américains ont affirmé que la 101e division aéroportée de l'armée américaine basée en Europe s'apprête à entrer sur le territoire ukrainien en cas d'escalade du conflit avec la Russie ou d'attaque contre un allié de l'OTAN. Au même moment où la tension entre la Russie et l'Ukraine monte à un crescendo, des sources d'information ont fait part des opérations de la 101e division aéroportée de l'armée américaine à proximité de la frontière de l'Ukraine. L'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoly Antonov, a averti mercredi soir que les responsables de Washington avaient transformé le territoire de l'Ukraine en zone de guerre avec Moscou. Nous avons déjà officiellement dit aux responsables américains que les déclarations des commandants militaires de ce pays sont inacceptables. Washington est de plus en plus impliqué dans la guerre en Ukraine et transforme le territoire de ce pays en un champ de bataille face à la Russie. Ce diplomate russe a déclaré que la Russie ne tolérait pas la montée des tensions à ses frontières, déclarant « L'implication directe de l'armée américaine dans la guerre en Ukraine entraînera des conséquences désastreuses. Je crois que mettre de l'huile dans le feu dans une telle conjoncture n'est pas dans l'intérêt de Washington. » 17 terroristes Shebab, dont deux dirigeants ont été tués lors d'une frappe aérienne dans le sud de la Somalie, annoncé mercredi 27 octobre le ministère somalien de l'Information et de la Culture. Par voie de communiqué, le ministère a déclaré que le gouvernement, avec la coopération d'alliés internationaux, a mené la nuit dernière un raid aérien ayant visé un rassemblement des terroristes Shebab dans la région du Moyen Chabel, dans l'état de Hirshabelle. La même source a ajouté que le raid aérien planifié par les services de renseignement somaliens a permis de neutraliser 17 terroristes Shebab, dont deux dirigeants, sans donner plus de détails. Lors des opérations militaires menées depuis le début de cette semaine, les forces gouvernementales, avec le concours des habitants, ont éliminé 150 terroristes Shebab, dont des dirigeants du mouvement, selon le communiqué. Gaz russe, méga percée iranienne. L'Iran est prêt à remplacer les turbines de fabrication occidentale sur les gazoducs russes. Reza Noshadi, PDG d'une société iranienne d'ingénierie et de développement du gaz, a déclaré que Téhéran et Moscou avaient signé un accord pour fournir 40 turbines à gaz de fabrication iranienne. Selon Noshadi, la République islamique d'Iran est actuellement capable de produire indépendamment 85% des équipements nécessaires à l'industrie gazière. Quand exactement l'affaire a été conclue et quand les turbines devraient arriver en Russie, il n'a pas dit. Les responsables russes n'ont pas encore commenté les propos du représentant iranien. Rappelons que Gazprom avait des problèmes avec les turbines Siemens bien avant l'explosion de Nord Stream. Le volume des livraisons via le pipeline a été réduit en raison du fait que certaines des turbines étaient bloquées en raison des restrictions de sanctions au Canada où elles ont été envoyées pour maintenance. Puis, après une longue bureaucratie, au moins une unité a néanmoins été livrée en Allemagne. Mais Gazprom a refusé de l'accepter car une telle procédure de transfert est contraire au contrat. Si les turbines n'étaient nécessaires que pour Nord Stream, le manque de leur approvisionnement ne serait pas un gros problème. Cependant, les turbines à gaz sont également nécessaires pour les centrales électriques conventionnelles où elles sont utilisées comme source principale ou de secours d'électricité et de chaleur pour les installations industrielles ou domestiques, pour l'industrie pétrolière et gazière et les entreprises industrielles. Par conséquent, l'absence de ce type d'équipement peut créer de sérieuses difficultés dans l'industrie électrique russe. Quant à l'Iran, que des turbines soient livrées ou non, la coopération entre la Russie et la République se développe activement depuis février, y compris dans le secteur de l'énergie. Les livraisons de turbines que l'Iran produit effectivement, et ce au mépris de 4 décennies de sanctions, apparaissent comme une suite logique de la coopération Iran-Russie. Mais où exactement les turbines iraniennes peuvent-elles être utilisées? Tant dans les centrales électriques que dans les stations de compression de gaz, on utilise à peu près les mêmes turbines. Seule l'énergie qu'il génère est dans un cas l'entraînement du générateur et dans l'autre le groupe compresseur pour pressuriser la canalisation. Le champ d'application des turbines à gaz est très large, mais la plupart d'entre elles vont aux centrales électriques conventionnelles.
Bonjour à tous, bienvenue à partir des studios de Téhéran. Aujourd'hui, un sujet dont on ne parle pas assez, la situation en Palestine, notamment également en Cisjordanie, à Naplouse. Chaque jour, imaginez des familles qui ne savent pas si leurs enfants vont revenir à la maison. C'est la situation actuelle en Palestine. Les ONG n'arrêtent pas d'alarmer les médias et les autres pays et continents, mais aucune information n'est divulguée concernant le nombre de morts par jour. C'est le sujet d'aujourd'hui. Comme d'habitude, nous avons préparé un petit reportage qui vous situe la situation. Et ensuite, nos deux invités viendront débattre. Tout de suite, je vous propose donc notre reportage.
Les forces israéliennes ont mené dans la nuit du lundi au mardi 25 octobre une série de raids à travers la Cisjordanie occupée, causant la mort de moins 5 Palestiniens et plus de 20 blessés. Plusieurs quartiers de la vieille ville de Naplouse ainsi qu'une ville au nord de Ramallah étaient visés, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. Le raid sur Naplouse a fait 4 morts parmi les Palestiniens, dont l'un des chefs du groupe de résistance Fosse au Lion, nommé Wahid Al-Hou. Un cinquième Palestinien, un adolescent, a trouvé la mort dans la ville de Nabi Saleh, au nord de Ramallah. Il a été touché à la poitrine par des tirs à balles réelles des forces israéliennes, a rapporté Wafa. Au total, 21 Palestiniens ont été blessés lors des raids de ce mardi. 4 d'entre eux se trouvent dans un état critique. Zahir Jabarin, membre du bureau politique du mouvement de résistance du Hamas basé à Gaza, a publié une déclaration déplorant la mort des Palestiniens lors du raid des forces israéliennes sur Naplouse. Le Hamas a salué les combattants héroïques de la résistance du groupe Fosse au Lion qui se dresse courageusement contre les forces d'occupation. Nous appelons notre peuple et nos combattants de la résistance à s'opposer à l'occupation et à la combattre, a-t-il réitéré. Au moins 175 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, illégalement occupés et dans la bande de Gaza assiégée depuis le début de 2022, dont 51 Palestiniens lors de l'assaut de 3 jours d'Israël sur Gaza en août dernier, selon le ministère palestinien de la Santé. Des groupes de défense des droits de l'homme ont condamné l'usage excessif de la force par Israël et sa politique de tirer pour tuer contre les Palestiniens. Par ailleurs, Amnesty International a appelé mardi à une enquête de la Cour pénale internationale CPI sur de possibles crimes de guerre lors de l'escalade dans la bande de Gaza en août.
Bonjour à tous. Donc, nous revoilà pour notre débat. Nos deux invités, Madame Aïssar Midani, donc à partir de Damas, experte des questions internationales. Bonjour, Madame Midani. Ravie de vous revoir sur nos plateaux.
Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à votre invité et merci de votre invitation. Et bonjour.
Notre deuxième invité, Monsieur Imad Deddin Amrouni. Bonjour, Monsieur Amrouni. Ravi également de vous avoir sur le plateau, vous-même expert en questions politiques.
Bonjour à vous et à votre invité et à tous les téléspectateurs, bien sûr.
Alors aujourd'hui, une question dont on ne parle pas assez souvent, la situation palestinienne, notamment en Cisjordanie, où depuis plusieurs mois déjà, malheureusement aussi, les tensions montent, les jeunes se font tuer un par un. Chaque jour, on dénombre un nombre de morts ou de blessés. L'actualité internationale n'en parle pas du tout ou très peu. Pourtant, les ONG sont actifs et prônent souvent l'alarme en expliquant que la situation dégénère à son paroxysme. Madame Midani, vous-même, vous avez vu les dégâts que cause l'entité sioniste en Syrie avec des attaques régulières par le biais de drones ou par le biais d'attaques de missiles directement sur les civils. Que pensez-vous de la situation à l'heure actuelle en Cisjordanie ?
Écoutez, je pense que Israël, d'abord, c'est un état d'occupation fantoche qui a été créé par les Américains et les Britanniques, et bien sûr par toutes les et il est défendu par tous les impérialismes internationaux. Donc ça, c'est un point clé de sa création et de sa défense. Maintenant, on comprend, on voit aussi les deux poids deux mesures au niveau de l'ensemble des institutions et des structures à la fois internationales et des structures des médias mainstream qui, en fait, par exemple, quand il y a un Israélien qui est tué, alors on en parle pendant des plombes dans la presse, alors que quand ce sont des Palestiniens, c'est un mutisme total et on n'en parle même pas. Dans le meilleur des cas, on fait une petite allusion. Donc ça, c'est lié à ces structures internationales qui sont aujourd'hui malheureusement à la solde des Américains, qui ne ratent pas une occasion pour affirmer leur soutien inconditionnel à cet état fantoche d'Israël et à leur défense totale, systématique, etc. D'ailleurs, on voit récemment, lorsque dans la visite du ministre israélien de la Défense, en fait, et même Yair Lapid, etc., en fait, quand ils sont partis aux États-Unis, à chaque fois, tous les responsables américains affirment et réaffirment leur soutien. Je voudrais rappeler quand même les soutiens abusifs qui ont été systématiquement donnés à Israël font que effectivement il continue dans ses crimes sans toute impunité, même des crimes contre l'humanité, même des génocides, même en bravant toutes les lois internationales de défense aussi. Des peuples des pays occupés, il continue effectivement à braver toutes ces règles et toutes ces lois. Mais aussi, pareil, alors dans les attaques systématiques contre la Syrie, ce sont aussi des attaques illégales aussi qui violent le droit international, qui violent les droits qui violent tout en fait et qui s'attaquent en plus à des cibles civiles en Syrie, et ils prétendent qu'ils défendent leur sécurité, ils défendent leur sûreté nationale. Donc on voit tout ça et c'est vraiment c'est une source, je dirais, de grande révolte dans les pays et dans les peuples arabes, chez les peuples arabes et chez tous les peuples du monde. C'est deux poids, deux mesures. C'est ce soutien inconditionnel à un État fantoche qui a usurpé les terres des autres, qui commet tous les jours des crimes contre l'humanité, qui commet tous les jours même des grands massacres. Et tout ça en toute impunité, dans le silence total des médias, voire le soutien, ou quand on en parle par le petit bout de la lorgnette. Hein. Et toujours, je voudrais aussi dire, en disant, ce sont les Palestiniens qui sont responsables. Alors, ce sont les Palestiniens qui ont la destination, qui sont responsables de ce qui se passe en Palestine, alors que c'est un peuple déterminé qui ne fait que se défendre, défendre ses droits les plus élémentaires. Les plus élémentaires, aussi bien sous occupation ou même pour mettre fin à l'occupation, son droit de se battre contre un ennemi qui occupe son pays, qui usurpe ses droits, qui vole ses terres, qui vole ses ressources et qui tue systématiquement ses jeunes. Donc, moi, je dirais, c'est en fait, malheureusement, ces structures internationales sont complètement aveugles sur le droit des peuples et notamment sur le droit des peuples palestiniens. Il faudra les réveiller, il faudra vraiment agiter ciel et terre pour qu'ils commencent à réagir. Et je crois que ça, c'est une des batailles que les Palestiniens mènent aussi au niveau de ces instances internationales, parallèlement à la lutte armée, à la lutte pour leur... pour leur libération sur le territoire.
J'essayais d'expliquer qu'en fait, c'est qu'une partie du globe, finalement, où il y a eu peu de soutien, parce qu'on a vu des pays d'Amérique du Sud remettre au niveau central la question palestinienne, puisqu'ils sont devenus de gauche. Nous avons eu également des pays arabes, comme les dernières réactions positives concernant la résistance palestinienne, où les gens réen parlent. Et c'est l'autre côté du miroir, donc là où sont les tribunaux, là où sont par exemple la CPI, etc., qui eux ne réagissent pas.
Parce que... En fait, il y a eu quelques réactions du côté de la CPI ou du côté d'un tribunal international, mais en tout cas, étant donné que l'État fantoche d'Israël est largement soutenu par les Américains, il ne prête aucune importance à ces condamnations, d'une part, et voire même les personnes qui ont été à l'origine, effectivement, de ces condamnations, c'est-à-dire les juges, etc., ils ont été même interpellés par les Américains et pour faire pression sur eux pour revenir en arrière sur leur témoignage et sur leur décision. On a vu aussi que l'État fantoche d'Israël a été condamné à un moment donné comme un État par l'ONU, comme un État raciste et fasciste. Et 2 ans après, il y a eu des pressions pour retirer cette décision, même de l'ONU. Donc on voit quand même qu'il y a une... c'est pas seulement deux poids deux mesures, il y a un soutien de l'agression qui est absolument décidé et déterminé de la part des Américains et de la part des grandes solutions, des grands pays qui dominent ces instances internationales.
Merci, Mme Midani. Excusez-moi de vous interrompre. Donc, Monsieur Amrouni, de retour. Monsieur Amrouni, vous êtes à Paris, donc de l'autre côté, j'ai envie de dire, du miroir, là où l'actualité est présentée de manière quand même extrêmement différente. Il faut imaginer quand même qu'en Palestine, les parents, les familles, voire leurs jeunes, quel que soit leur âge, parce qu'on parle quand même d'enfants de 7 ans qui sont morts. On ne parle pas forcément de jeunes de 20 ans, de 30 ans ou de 40 ans. On parle de jeunes qui s'en vont à l'école, par exemple, et qui ne reviennent pas à la maison, ou qui sont arrêtés, soit tués, soit arrêtés. Bien qu'il y ait eu des condamnations Absolument. Internationales, Israël n'a jamais été sanctionné pour ses actes anti-humanité. Les gens ont très peu réagi, finalement, à des actes barbares. Et en Cisjordanie, j'aime le souligner, ces derniers mois, a atteint son paroxysme, et sans la fosse au lion, sans ce nouveau groupe qui ne se présente pas comme un groupe.
La question est à moi ou à
Monsieur Amrouni ? Non, à Monsieur Amrouni. À M. Amrouni, puisque M. Amrouni est de retour.
Oui, bonjour tout le monde. Bien sûr, vous savez, l'agression israélienne et la colonisation sioniste qui dure depuis 7 décennies, maintenant même plus, depuis 47 ans. Cette agression continuelle contre la population palestinienne, contre la jeunesse palestinienne. Et ce qui est très intéressant, c'est cette agressivité contre l'avenir de la Palestine. Car c'est quoi les enfants ? C'est quoi la jeunesse ? C'est l'avenir d'un pays. Et donc, l'entité sioniste sait très, très bien que l'avenir d'Israël, elle est en lien avec la jeunesse palestinienne. Et cette jeunesse palestinienne n'a jamais cessé de lutter contre l'occupation sioniste. C'est ça qu'il faut bien le préciser. C'est vrai, c'est-à-dire l'Occident à sa tête, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, etc., ils ont toujours soutenu l'effort de guerre d'Israël. C'est-à-dire que l'Occident, il est complice dans la tuerie de tous les musulmans, de tous les Arabes et de tous les Palestiniens. Ce sont des complices, ce n'est pas simplement des alliés d'Israël. Ce sont eux qui soutiennent cette agressivité. Ici, par exemple, les médias ou certains hommes politiques français appellent les Maghrébins des sauvageons parce qu'il y a quelques jeunes dans des banlieues qui veulent défendre leur droit d'être. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler les sionistes ou les Israéliens avec ce qu'ils font contre les Palestiniens? Il faut noter qu'il y a plus que 850 enfants, moins de 12 ans, moins de 12 ans. Ils sont prisonniers. Il y a plus que 2000, moins de 18 ans. Il y a 10 000, entre 10 000 et 15 000 prisonniers palestiniens tous les jours. On l'a vu là, il y a quelques jours, 6 martyrs jeunes. Le moyen d'âge est de 23 ans. Cette nouvelle génération de la résistance palestinienne, cette nouvelle génération de la lutte palestinienne, avec vous, même dans cette émission, il y a 2 ans, j'ai bien noté qu'il y a une nouvelle forme de résistance. Il y a une jeunesse palestinienne qui n'appartient à aucune fraction palestinienne. Elle n'appartient ni au Fatah, ni au Jihad, ni au Hamas. C'est une nouvelle forme de résistance. Et c'est ça qu'il faut noter, et c'est ça qu'il faut encourager, et sur ça qu'il faut communiquer. Il ne faut pas toujours dire, oui, qu'est-ce qu'ils font les organisations internationales, droits de l'homme. Il n'y a pas de droits de l'homme en Occident. Il y a le droit de l'Occident. Il n'y a plus de droits de l'homme. Ici même, en Europe, on est soupçonné, rien que vous êtes soupçonné de soutenir les Palestiniens ou la Palestine, eh bien vous êtes fiché, vous êtes suivi, vous êtes harcelé. Les Palestiniens qui vivent en Europe et qui sont actifs pour défendre leur peuple, ils sont harcelés par les services. Pourquoi? Parce que l'Occident, il est complice de l'entité sioniste. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une politique étrangère européenne ou française indépendante de ce que dictent les Américains, ce que dictent les Israéliens? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et le problème aujourd'hui, il est global. Et c'est cette jeunesse qui lutte contre l'entité sioniste, en fait, il ne lutte pas juste contre l'entité qui colonise la Palestine. Il lutte pour la libération des hommes dans la terre. Parce que le sionisme, c'est un système international. Ce n'est pas Israël. On peut gagner des batailles contre Israël. Mais le combat, il est contre le système. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On mène une bataille pas pour libérer juste la Palestine. On mène la bataille pour libérer les hommes de la tyrannie sioniste internationale. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on rentre dans un nouveau âge, si vous voulez. Le New Age. Le New Age, ce n'est pas le bien-être comme on veut prétendre en Occident. Le New Age, c'est un New Age de la résistance dans le monde. Et c'est ça, aujourd'hui, on le voit en Palestine, au Liban, en Irak, en Syrie, au Yémen, mais on le voit en Chine, on le voit en Russie, en Venezuela, on le voit en Afrique, on le voit en Europe. Donc c'est une nouvelle ère de résistance dans le monde. Ceux qui détiennent cette résistance, aujourd'hui, c'est la jeunesse palestinienne. C'est pour cette raison qu'on fait le blackout au niveau de la communication en Europe. On n'en parle pas ou on en parle peu. Pourquoi? Parce que la jeunesse européenne, elle est liée à cette jeunesse palestinienne. Et c'est ça qu'il faut forcer. Il faut montrer cette nouvelle jeunesse qui lutte pas simplement contre l'occupant israélien, mais contre un système impérialiste sioniste international.
Merci Monsieur Amrouni pour ces propos très éclairants. En effet, la situation est dans les mains des jeunes. Madame Midani, avez-vous quelque chose à répondre aux propos de Monsieur Amrouni?
En plus, effectivement, moi je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est le sionisme international qu'il faut combattre, que c'est effectivement, ce sont il est soutenu par toutes les forces impérialistes du monde, donc, et qu'aujourd'hui tous les peuples et les jeunes se rebellent contre cette force de domination et se donnent la main avec le peuple palestinien. Devrait se donner la main comme c'est le cas dans le cadre de l'axe de la résistance, en fait, de tous les pays de l'axe de la résistance qui se regroupent autour des Palestiniens pour les soutenir. J'aurais voulu signaler quand même le soutien total de la Syrie à la lutte du peuple palestinien qui n'a jamais cessé, et qu'aujourd'hui, le retour de l'ensemble des organisations palestiniennes à Damas est quelque chose, c'est un fait assez historique et important dans le fait de l'unité, je dirais, de la reconstitution de l'unité au sein de l'axe de la résistance. Je voudrais aussi ajouter la résistance du peuple libanais contre ces agressions répétées israéliennes, la résistance du peuple yéménite aussi contre les agressions de certains complices d'Israël qui sont les agressions israéliennes, mais aussi saoudiennes. Toutes ces pressions qui se font contre les États officiels, les États du Golfe et l'Arabie saoudite, etc., et qui sont contre nature de leur peuple. Mais en fait, il y a eu effectivement un mouvement de normalisation des rapports de certains gouvernements avec l'État d'occupation, mais ça ne change rien à la réalité que les peuples de ces pays, par exemple le Bahreïn, les peuples bahreïniens, le peuple yéménite, le peuple égyptien et le peuple jordanien, qui aussi, ils sont toujours très liés au peuple palestinien et à la lutte du peuple palestinien. Et en fait, ce renouveau, je dirais, ce réveil, ce nouveau réveil du peuple palestinien, de la jeunesse palestinienne, y compris de la jeunesse, en fait, des zones occupées en 48, alors que les Israéliens ont voulu diviser les Palestiniens en différentes zones, etc. Ben maintenant, on voit une unité dans le combat sur le terrain qui oblige aussi les organisations, les différentes organisations palestiniennes à s'unir dans la lutte, à soutenir cette révolution ou cette révolte. On peut dire ce mouvement de libération lancé par la jeunesse, alors que les Israéliens pensaient que toute cette jeunesse allait oublier et que les vieux allaient mourir et que les jeunes vont oublier que leur pays, c'est la Palestine. Donc, en fait, aujourd'hui, je qualifierais ça d'une renaissance du mouvement palestinien au niveau des peuples, mais au niveau pas seulement du peuple palestinien, mais au niveau de l'ensemble des peuples arabes. Je voudrais aussi souligner et rendre hommage au peuple algérien qui fait énormément d'efforts aussi pour réunifier les directions des organisations palestiniennes et qui essaye aussi d'unir l'ensemble des pays arabes autour de la résolution de la révolution palestinienne.
Merci, Madame Midani.
Palestinien.
Merci, Madame Midani.
Effectivement, comme objectif, le soutien total à la Palestine.
Merci, Madame Midani. Donc, le temps commence à manquer. Monsieur Amrouni, pour conclure avec vous, l'avenir, c'est quoi? Monsieur Amrouni, vous m'entendez?
Oui.
Je disais pour vous, selon vous, selon ce que vous voyez en Europe, mais ce que vous sentez par rapport au Moyen-Orient, ça serait quoi l'avenir maintenant de cette résistance et de ce nouvel âge?
L'avenir, il est très positif. Il faut noter qu'on a besoin des leaders. Aujourd'hui, il y a un manque de leaders. Le grand leader du monde arabe aujourd'hui, c'est le président Bachar el-Assad. C'est la Syrie. C'est cette présidence du monde arabe qu'il faut, il faut la montrer. Peut-être le président Bachar el-Assad, il est très humble. Et même les hommes politiques syriens, ils ne font pas attention à cette identification du leader. Il faut noter que les Arabes, les Palestiniens à l'intérieur, à Nablus ou à Jenin, ils montrent le drapeau syrien, c'est-à-dire à côté du drapeau palestinien, ils montrent le drapeau syrien. Ça montre que le leader c'est la Syrie. La Syrie, il faut qu'elle prenne sa place. Et c'est pour cette raison que l'entité sioniste, elle bombarde tous les jours presque Damas. Donc c'est le symbolisme qui est important, c'est le leader qui est important, c'est la communication sur la résistance militaire, la résistance politique, la résistance dans la communication, dans la culture, qui est très importante aujourd'hui. On est dans une phase au niveau mondial propice à cette nouvelle renaissance, comme bien noté votre invité de Damas, et propice aussi à toutes les forces qui montent en Russie, à la République islamique iranienne, en Chine et même en Amérique latine et en Afrique. Donc c'est le moment d'unifier l'action palestinienne et d'unifier la résistance arabe.
Merci Monsieur Amroudi, merci Madame Aïssar Midani pour votre coopération au sein de ce débat. Le sujet, on pourrait en parler de longues heures parce que malheureusement il est grave, il est important, il représente également l'avenir de beaucoup de territoires au Moyen-Orient. Nous vous a présenté une actualité, on vous en présente d'autres. À vous de faire votre point de vue. Ici c'était Presse TV à partir des studios de Téhéran.
Voix de l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 25e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. Personne ne cache quoi que ce soit dans son cœur, à moins que cela ne se révèle dans les ombres de ses mots et dans la couleur et les lignes de son visage. Cette maxime de la voix de l'éloquence du vénéré imam Ali béni soit-il souligne la question des intentions profondes et de l'hypocrisie. Lorsque les êtres humains veulent échapper à une responsabilité, ils se justifient comme ils peuvent. Ils peuvent concocter une légitimité à leurs actions. L'un des moyens pour reconnaître les hypocrites est d'écouter les fausses excuses qu'ils présentent. Leurs paroles n'ont pas de fondement solide et révèlent les profondeurs de leur manque de sincérité. Ils s'accrochent à certaines parties d'un problème et les étalent au lieu de prendre en considération le tableau complet. Ainsi, lorsqu'ils prétendent être des adeptes et des partisans de la religion, ils détruisent ses principes. Parfois, une personne va justifier ses mauvaises actions et se trouver des excuses, cherchant à se convaincre que ce qui est accompli ou non est convenable dans cette situation. Cela pourrait être une forme d'hypocrisie vis-à-vis de Dieu, à propos de laquelle le verset 9 de la sourate 2 du Noble Coran dit « Il cherche à tromper Dieu et les croyants ». « ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. En effet, c'est une tentative de museler la conscience par le biais d'un mauvais raisonnement. L'intelligence est détournée pour imaginer des raisons étranges, mais en apparence correctes pour l'action. Une telle hypocrisie, lorsqu'elle est utilisée régulièrement, devient une partie intrinsèque de la nature d'une personne et constitue une barrière au développement de la foi et de la perfection. C'est une maladie dangereuse qui souvent n'est pas détectée, même par le patient lui-même. L'hypocrisie est courante dans la société, se faufilant dans toutes les parties de l'interaction humaine. Il est nécessaire d'être vigilant face à ces signes, aussi bien chez soi que chez les autres. Ils aiment se vanter de ce qu'ils font et ils veulent s'attribuer le mérite de bonnes actions qu'ils n'ont pas accomplies. Les gens sont de trois types en ce qui concerne leurs actes. Un groupe de croyants sincères qui aiment Dieu et ne souhaitent qu'obtenir sa satisfaction. Ils font de bonnes actions et ne désirent aucune récompense ou appréciation de la part des gens. Les Ahlul Bayt, saints descendants du prophète, ont enseigné ce noble comportement à travers leur interaction avec le pauvre, l'orphelin et le prisonnier qu'ils ont nourri alors qu'ils avaient jeûné pendant 3 jours. Ce groupe n'est pas avide de louanges pour ses actes. Ils ont plutôt peur d'être félicités pour leurs actions. Dans le sermon 193 de la voix de l'éloquence, l'imam Ali béni soit-il explique leur réaction lorsque quelqu'un les loue. L'imam Ali dit: ils ne sont pas satisfaits de leurs maigres bons actes et ne considèrent pas leurs actes majeurs comme grands. Ils se blâment toujours et ont peur de leurs actes. Quand on parle d'eux, en termes élogieux, ils disent: « Moi, je me connais mieux que les autres, et mon Seigneur me connaît encore mieux que je ne le sais. Ô Dieu, ne me traite pas selon ce qu'ils disent, et rends-moi meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Et pardonne-moi ces défauts qu'ils ne connaissent pas. » Le deuxième groupe fait de bonnes actions pour les montrer aux gens, afin d'être respecté et loué dans la société. Le verset 4 de la sourate 38 du noble Coran dit à leur sujet: et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens et ne croient ni en Dieu ni au jour dernier. Le motif principal de ces actions et la louange des gens. Ce type d'hypocrisie est grandement condamné. Selon un hadith du vénéré imam Sadr, béni soit-il, 6e imam des chiites, l'hypocrisie, sous toutes ses formes, équivaut au polythéisme. En vérité, celui qui œuvre pour les gens, sa récompense est auprès d'eux, et celui qui œuvre pour Dieu, sa récompense est auprès de Dieu. Et enfin, le troisième groupe n'accomplit aucune bonne action, mais se donne une fausse apparence et veut que les gens le louent. Ce groupe est constitué d'hypocrites qui n'ont ni personnalité ni morale. Ils n'ont pas honte de rechercher le mérite de ce qu'ils n'ont pas fait. Lorsque le Coran parle des croyants et des hypocrites au jour du jugement, une des choses qu'il évoque est un mur de séparation qui sera érigé entre les deux groupes. Lorsque les hypocrites demanderont la lumière aux croyants, on leur dira qu'ils ne peuvent l'obtenir que s'ils peuvent retourner dans le monde. Car la lumière est dérivée des actions accomplies dans le monde. Puis, comme mentionné dans le verset du Coran, un mur est mis en place entre les deux groupes. Le mur a une porte avec la miséricorde à l'intérieur et la punition à l'extérieur. Le jour du jugement, les croyants à l'intérieur de ce mur vivront comme les habitants de la ville clôturée, dans une tranquillité imperturbable. Les hypocrites, comparables aux étrangers, ne seront pas autorisés à y entrer.
Thank you.